Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous nous suivez à la radio et en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI, la chaîne YouTube qui vient d'ailleurs de franchir le cap des 2 millions d'abonnés. Merci à toutes et à tous, évidemment, de votre confiance. On est ensemble jusqu'à 9h, temps universel, avec dans 30 minutes vos réactions, et elles sont très nombreuses ce matin, après la réaction, après le départ de la famille Bongo en Angola. Je vous rappelle que le président déchu, Ali Bongo, a quitté le Gabon avec son épouse Sylvia et son fils Nourdine, tous deux poursuivis notamment pour détournement de fonds publics et blanchiment de capitaux. Depuis vendredi, ils sont libres à Luanda, libres pour des raisons humanitaires, a expliqué le procureur général du Gabon, tout en insistant que l'épouse et le fils se trouvent sous un régime de liberté provisoire en attendant leur procès. Alors que vous inspirent ces libérations ? Désormais, quel avenir judiciaire pour la famille Bongo ? Nous lançons le débat ce matin sur RFI. Vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70 et vos commentaires également sur nos réseaux sociaux. J'en lirai quelques-uns évidemment tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. C'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes ici à Paris, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde pour répondre à vos questions, vous permettre de mieux comprendre l'actualité. Janvier, bonjour.
Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Et merci de nous écouter dans le sud-ouest du Tchad. Vous êtes à Gounougaïa et vous avez des questions sur la condamnation de l'ancien président mauritanien. 15 ans de prison ferme pour Mohamed Ould Abdelaziz.
Oui, j'aimerais comprendre pourquoi la peine de l'ancien président mauritanien a-t-elle autant été alourdie en appel, alors qu'il avait été condamné à 5 ans de prison à pleine récence.
Oui, effectivement. Condamnation qui surprend plus d'un. Il est accusé, je le rappelle, d'avoir amassé une fortune colossale. Fortune estimée, d'après les conclusions de l'enquête, à 90 millions de dollars. Bonjour Léa-Lisa Vesteroff. Ah, un petit problème avec la connexion entre Paris et Dakar, où se trouve la correspondante permanente de RFI. On me dit qu'on a un petit souci. Janvier, on est en direct, ça se passe comme ça sur RFI. Donc surtout, vous ne raccrochez pas. On essaie de rétablir la liaison avec Dakar. Un peu de patience. J'accueille un autre auditeur. Donc Edith Divin, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à votre dynamique équipe d'Aperture Actualité et aux auditeurs de l'émission.
Et merci de vos encouragements. Vous êtes à Kinshasa, vous avez des questions concernant l'exploitation pétrolière dans votre pays, la République démocratique du Congo.
Justement Juan, les autorités congolaises souhaitent relancer un appel d'offres pour le bloc pétrolier. Je voudrais savoir pourquoi le dernier appel d'offres a échoué, qu'est-ce qui avait freiné les investisseurs à l'époque.
Effectivement, c'est vrai qu'à l'époque, cet appel d'offres avait fini par être annulé. Bonjour Pauline Azidi.
Bonjour.
Alors, c'est un sujet qui est très commenté en RDC. Je rappelle que vous êtes la correspondante permanente de RFI à Kinshasa. Rappelez-nous pourquoi à l'époque, cet appel d'offres n'avait pas suscité l'intérêt des investisseurs, des acteurs du secteur.
Alors, le point qui fait consensus auprès des autorités et des spécialistes, c'est la présence de ces blocs pétroliers dans des aires protégées. Les ONG environnementales sont montées au créneau dès la publication de la cartographie en 2022, d'autant plus que lors de la COP de cette même année, la Conférence des Nations Unies pour le climat, la RDC s'était présentée comme un pays solution sur la question du changement climatique, et donc c'était pas un super timing de lancer cet appel d'offres cette même année. Le gouvernement voit lui, d'autres raisons aussi. Un manque de données disponibles. Il y a des chiffres qui circulent sur la capacité supposée de production du pays, mais il n'y a pas d'études complètes. Et un code pétrolier qui ne serait pas avantageux fiscalement, notamment eu égard aux pays voisins, exportateurs de pétrole, l'Angola, Congo-Brazza, Gabon.
Mais pour les chercheurs et les spécialistes, il y a quand même d'autres raisons.
Oui, bah oui, la gouvernance notamment, un climat des affaires qui ne serait pas favorable. Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales, estime aussi que la prospection pétrolière coûte cher et qu'avec un prix du baril en baisse, la QL centrale du Congo risque de rester inaccessible et de pas attirer les investisseurs. Ce sont des zones reculées avec un manque d'infrastructures actuellement pour pouvoir d'une part monter les structures pour la prospection et après pour exploiter ce pétrole. Le chercheur rappelle d'ailleurs que ce nouvel appel d'offres serait le troisième depuis 2010 et que les deux premiers n'ont jamais trouvé preneur.
Reste avec nous Pauline Azidi. Edith Divin a d'autres questions à vous poser. On vous écoute.
Comment le gouvernement congolais pense-t-il mettre en œuvre ces projets pétroliers tout en prenant en compte les enjeux environnementaux ? Qu'en est-il des blocs situés dans des aires protégées ?
Oui, c'est vrai que plusieurs ONG environnementales ne semblent pas très convaincues par ce nouvel appel d'offres concernant les exploitations pétrolières en RDC. Comment le gouvernement compte-t-il mettre en œuvre donc ce projet en respectant les enjeux environnementaux, Paulina ?
Alors, le gouvernement assure qu'il n'y a plus de blocs situés dans les aires protégées. Mais si l'appel d'offres a été annoncé en Conseil des ministres au début du mois, il n'a pas encore vraiment été rendu public. Pour ma part, je n'ai pas vu la cartographie précise de ces nouvelles zones. On sait qu'il y a une vraie difficulté en raison de la géographie, la géologie de la RDC. Il y a bien sûr la partie forêt tropicale qui est à préserver. Et aujourd'hui, ces forêts du bassin du Congo, c'est le dernier poumon de la planète. Et ce sont les dernières forêts à encore capter du carbone, c'est donc un enjeu majeur.
Et plus important peut-être encore, Pauline Azidi, ce sont les tourbières que l'on retrouve dans cette cuvette centrale.
Elles ont un rôle que l'on a découvert que très récemment. Il faut dire que l'intérêt pour les forêts du bassin du Congo est assez récent, lui aussi. C'est une zone qui a été sous-étudiée jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et notamment ces tourbières. En fait, ce sont d'incroyables puits de carbone. Elles stockent dans leur sous-sol une quantité phénoménale de ces émissions depuis, on va dire, la nuit des temps. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui fait dire qu'il y a probablement du pétrole dans ces zones parce que c'est un environnement propice à la composition de cet or noir. Et les environnementalistes alertent. Le risque, si l'on touche à ces zones, à ces tourbières, c'est aussi de relâcher une quantité phénoménale de carbone.
Edith Divin, a-t-on répondu à vos questions ? Êtes-vous satisfait ?
C'est parfait, Juan, et j'en remercie Pauline pour ses explications didactiques, vraiment.
Pauline Azidi, correspondante permanente de RFI à Kinshasa. Bonne journée à tous les deux, 10h18 à Paris. Janvier, vous êtes toujours avec nous ?
Allô ?
Oui, vous êtes toujours avec nous, Janvier. Vous savez quoi ? On a rétabli la liaison avec Dakar. On est en ligne avec Léa Lisa Vesterov, notre correspondante permanente. Bonjour Léa Lisa.
Tous.
Merci d'être avec nous en direct. Janvier s'interrogeait sur la condamnation la semaine dernière de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Il veut comprendre pourquoi a-t-il été condamné à 15 ans de prison alors qu'en première instance, il avait été condamné à seulement 5 ans. Pourquoi une peine beaucoup plus sévère cette fois ?
Eh bien, Juan, c'est tout simplement parce que lors de ce procès en appel, de nouveaux chefs d'accusation ont été retenus contre l'ancien président mauritanien. L'abus de fonctions et de biens sociaux, le trafic d'influence ou encore le recel. Ces trois chefs d'inculpation additionnés alourdissent mécaniquement la sanction puisque, rappelons-le, en première instance, en décembre 2023, la Cour n'avait retenu que l'enrichissement illicite et le blanchiment contre Mohamed Ould Abdelaziz. Enfin, selon les avocats des parties civiles, le juge a également alourdi la peine car Mohamed Ould Abdelaziz aurait, lors de ce procès en appel, été plus explicite et aurait reconnu que sa fortune était supérieure à celle qu'il avait déclarée au départ, car il n'avait par exemple pas pensé à inclure les cadeaux que lui auraient fait des chefs d'État étrangers, une forme d'aveu selon ses avocats qui aurait donné lieu à ce verdict ou qui aurait permis ce verdict plus sévère.
Ouais, les avocats de l'ancien président dénoncent un procès politique. Ils ont prévu de déposer un pourvoi en cassation. Et Janvier nous demandait justement quelles sont les chances que cette peine soit réduite en cassation. Difficile à dire, j'imagine.
Oui, impossible à prédire à ce stade. Ça sera bien sûr au juge d'en décider, mais bien sûr, c'est une possibilité que cette peine soit réduite. Ce que l'on sait, c'est que le juge de cassation ne revient pas sur les faits qui ont été relevés par le juge d'appel, mais il peut revenir sur la qualification de ces faits. Donc c'est un peu technique, mais ce juge pourrait par exemple décider que la loi sur la corruption et les crimes économiques a été adoptée en 2016 en Mauritanie ou celle sur le blanchiment des capitaux n'est pas applicable à des faits faits qui ont eu lieu avant cette date. Et c'est d'ailleurs l'un des principaux axes de défense des avocats de l'ancien président. Ils estiment par exemple que le blanchiment n'aurait pas dû être retenu par le juge, car la loi a été ratifiée en 2019 par la Mauritanie, alors que Mohamed Ould Abdelaziz a été au pouvoir avant, pendant 10 ans, de 2009 à 2019. Mais là encore, ça sera au juge de cassation, bien sûr, d'en décider.
Janvier, vous avez une dernière question. Allez-y.
Oui, pour finir, comment réagit le partisan de l'ancien président ?
Léa-Elisabeth Sterhoff.
Eh bien, vous le disiez un petit peu en début, hein, les défenseurs de l'ancien président se sont tous dit surpris et choqués par la sévérité de la peine et le fait qu'elle était alourdie en deuxième instance. Les partisans de Mohamed Ould Abdelaziz continuent de contester ce verdict. Ils parlent de règlement de compte et affirment que ce sont les ennemis d'Abdelaziz qui s'acharnent contre lui dans ce procès qu'ils qualifient de politique, Janvier.
On continuera à suivre cette affaire, bien évidemment. Janvier, voilà pour les explications de Léa-Elisabeth Sterhoff à Dakar. Je vous souhaite une bonne journée, Janvier.
Merci beaucoup, je suis satisfait de la réponse.
Vous êtes dans un endroit très bruyant. En tout cas, il y a du monde autour de vous à Gounougaïa, dans le sud-ouest du Tchad. Et les explications de Léa-Elisabeth Sterhoff sont à réécouter, évidemment, à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. 8h22, vous nous appelez au standard, on vous attend. 33 9 693 693 70, on répond tous les matins à vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Bonjour Gaëlle Lalex.
Bonjour.
Correspondante permanente de RFI à Nairobi. On s'est permis de vous appeler ce matin, Gaëlle, car Tim a des questions à vous poser après les déclarations pour le moins polémiques du président William Ruto. Bonjour Tim.
Oui, bonjour Juan, bonjour Gaëlle.
Et Gaëlle, vous écoute, vos questions.
Oui, William Ruto a affirmé que les personnes enlevées lors des manifestations politiques de ces derniers mois sont retournés auprès de leur famille. Avons-nous le preuve pour vérifier ces propos ?
Ah, y a-t-il des preuves ? Gaëlle Lalex, la répression policière a fait au moins 60 morts et 80 disparus. Avons-nous les preuves que les personnes enlevées lors des manifestations anti-gouvernementales ont bien été rendues à leur famille, comme l'a donc affirmé le président William Ruto ?
Eh bien non, Tim, pas vraiment. La déclaration de William Ruto a provoqué d'ailleurs une vague d'indignation ici au Kenya. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme accusent le président de mentir. Et pour preuve, Vocal Africa, par exemple, a publié une liste de noms de personnes toujours portées disparues. Une liste non exhaustive, a prévenu l'organisation, qui parle même d'un petit fragment de ce que représente, selon elle, le système d'oppression des autorités kenyanes.
Et ce sont en fait les forces de police qui sont soupçonnées d'être derrière tous ces enlèvements.
Oui, d'après Missing Voices, une coalition d'organisations de la société civile qui publie chaque année un rapport sur les violences policières, 2024 représente l'année avec le plus grand nombre d'enlèvements et d'exécutions extrajudiciaires enregistrés depuis que la coalition fait son travail de suivi. Missing Voices a enregistré 159 cas de disparitions forcées et d'exécutions extrajudiciaires l'année dernière. C'est 24% de plus qu'en 2023. 65% de ces cas sont des exécutions perpétrés par la police, surtout durant ce que l'on appelle ici la Manda Mano, un mouvement de contestation de la jeunesse qui a eu lieu en juin et juillet dernier. Selon Missing Voices, les disparitions forcées seulement ont augmenté de 450% en 2024 par rapport à l'année précédente.
Tim, vous avez d'autres questions ? Profitez-en, allez-y.
Oui, maintenant que le président a reconnu que les forces de sécurité étaient impliquées, une enquête pourra-t-elle être ouverte à ce sujet ?
C'est en tout cas ce que demandent les proches des victimes, Gaëlle.
Oui, les proches des victimes et les organisations de défense des droits de l'homme. L'opposante Martha Karua, l'ancien président de la Cour suprême David Maraga, se sont également exprimés à ce sujet. D'après l'inspection générale de la police, pour l'heure, seuls deux agents ont été présentés à des tribunaux pour leur rôle dans la répression des manifestations de juin et juillet dernier. L'autorité indépendante de surveillance de la police avait pourtant rapporté 60 affaires à étudier. En tout cas, il est assez clair qu'il n'y a aucune volonté de la part des autorités d'élucider les circonstances circonstances de ces disparitions forcées. L'interdiction, ici au Kenya, de la diffusion d'un documentaire de la BBC qui identifie plusieurs policiers soupçonnés d'être responsables d'exécutions extrajudiciaires envoie un message assez clair.
Merci infiniment, Gaëlle Alex, en direct de Nairobi, au Kenya. Tim, voilà pour nos explications. Je vous souhaite une belle journée à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Victor, patiente au standard, lui aussi a la parole ce matin. Bonjour Victor.
Bonjour Juan Gomez.
À Pointe-Noire, au Congo.
Je confirme, je suis à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville.
Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
J'ai deux questions.
Oui.
Et la première, le Rwanda a signé un premier accord avec Washington afin de créer une chaîne d'approvisionnement d'étain vers les États-Unis. Mm-hmm. Pourtant, Donald Trump avait appelé le gouvernement à cesser de soutenir le M23 sous peine de sanctions. Alors, pourquoi renforcer leurs relations?
Ah, je comprends que vous vous posiez la question. Bonjour Bob Kabamba.
Bonjour Juan, bonjour Victor.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Liège. Victor parle d'accord. On ne peut pas encore parler d'accord. Il s'agit, et je parle sous votre contrôle, Bob Kabamba, d'une lettre d'intention signée par le groupe minier Trinity Metal avec une société américaine.
Tout à fait. Donc, mais pour Victor, pour que ça soit bien clair, hein, il faut bien qu'ils comprennent que toute médiation n'est jamais neutre. Chaque fois qu'il y a un pays qui se propose d'être médiateur, c'est parce que ce pays a des objectifs qu'il doit arriver à avoir. Et donc, dans le cas ici de la crise entre le Rwanda et la RDC, les États-Unis poursuivent vraiment trois objectifs. Dans un premier temps, ils veulent avoir accès aux mines de la RDC en vue d'assurer une meilleure approvisionnement. Ensuite, il y a la question chinoise, parce que nous savons tous que la Chine possède la majorité des mines au Congo et qu'il est important pour les États-Unis de ne pas laisser la main libre aux Chinois sur ce territoire-là, sur ce continent. Et enfin, il y a un objectif un peu plus personnel de Donald Trump, et qui, comme le disent beaucoup d'observateurs, aussi bien américains qu'européens, que Donald Trump voudrait se présenter comme candidat au prix Nobel de la paix, bien sûr, pour se présenter comme candidat au prix Nobel de la paix. Et donc, il faudrait qu'il ait quand même un success story diplomatique, c'est-à-dire résoudre un conflit international qui pourrait lui permettre de pouvoir revendiquer, d'être nominé parmi les candidats.
Mais Bob Kabamba, on entend bien vos propos et vos explications pertinentes, mais je me mets à la place de Victor. On a d'un côté le président Trump qui fait pression sur le Rwanda pour qu'il cesse de soutenir les rebelles du M23, pour qu'il retire les troupes rwandaises de l'Est de la RDC, et en même temps un Donald Trump qui incite les entreprises américaines à signer des contrats avec le Rwanda. Ça peut sembler contradictoire.
Non, ça ne semble pas contradictoire parce qu'il faut savoir que le Rwanda, demander au Rwanda de pouvoir cesser ses revendications, c'est une forme de pression que les États-Unis veulent exercer sur le Rwanda pour obtenir les résultats que les Américains attendent. Or, cette pression, nous savons tous que c'est pour le Rwanda une façon pour le Rwanda de pouvoir être en mesure de pouvoir suivre les diktats américains, et parce que c'est le Rwanda aussi qui est en position de force dans la dynamique entre le Congo et le Rwanda. Position de force qui est justifiée par plusieurs choses. C'est que d'une part, les Américains, les entreprises américaines sont incapables de pouvoir investir directement au Congo pour toute une série de raisons. Le climat des affaires, le problème lié à la corruption, etc., etc. Par contre, à Kigali, c'est un État qui est différemment géré et qui est classé parmi les meilleurs États où il y a moins de corruption, où on sait faire des affaires, où il y a déjà eu plusieurs entreprises américaines qui sont déjà actives. Et donc, pour les Américains, faire pression sur le Rwanda, c'est aussi épater le Rwanda en me disant oui, il faut que le Rwanda soit le pilier de le partenaire privilégié des Américains sur le dossier des minerais congolais. Et c'est pour ça qu'il y a cette pression, et c'est pour ça aussi que les entreprises américaines privilégient essentiellement le Rwanda plutôt que le Congo.
En tout cas, après cette lettre d'intention signée par le groupe minier Trinity Metal et la société américaine Nathan Trotter, le Bureau des ressources énergétiques du département d'État américain a insisté sur le fait que ce type de projet renforce la sécurité nationale américaine et favorise la prospérité économique. Fin de citation. Bob Kabamba, merci infiniment d'avoir pris quelques instants ce matin pour répondre à Victor qui nous appelait de Pointe-Noire. Bob Kabamba, professeur de sciences politiques à l'Université de Liège. Vous restez avec nous, la dernière édition d'Afrique Matin dans quelques secondes, suivie comme tous les jours de votre débat du jour et on parlera de la famille Bongo.